Bien bonjour, bon matin, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, Hélène Bédard au micro. Je suis accompagnée en studio de Francine Forget, bonjour.
Bonjour Hélène, vous allez bien aujourd'hui?
Ah, il fait beau, il fait bon, c'est agréable.
Et on est rendu à l'été, regardez, il y a un jardin de l'autre côté de la vitre.
Ce qu'on vous dit pas, c'est que tous les vendredis, notre charmant régisseur Mathieu Tessier, que je présente à l'instant, nous à son choix des plantes fleuries, des plantes vertes. Il en met toujours devant nous, devant la vitre. Alors, bonjour Mathieu.
Bon matin.
Alors, c'est charmant. L'autre jour, nous étions trois, il avait apporté trois plantes. Alors, on a de la variété ici. Merci beaucoup. Alors, ce matin, Catherine Brunet étant absente, on la salue. Elle sera avec nous le vendredi prochain. Et nous allons y aller avec une sommaire présentation de nos sujets. Francine, vous allez nous parler de quoi?
Encore une fois, je dirais, mais c'est toujours des points de vue intéressants, c'est le cellulaire et la dépression chez les jeunes, probablement de crypto-monnaie, peut-être de votre nom sur le soleil. Mais je vais d'abord commencer par « quand meurt-on? » Alors, une question posée et analysée sous l'angle scientifique, mais aussi éthique.
Bien hâte d'entendre ça, bien hâte. Moi, je vais faire le lien avec Francine sur certains de mes sujets chouchous, comme entre autres une enquête, la fin de l'enquête de Noémie Mercier, c'est bien sûr. Je vais vous parler d'âge, de grande fatigue, de bénévolat. Enfin, je vais vous jaser de tout ça au retour de ce court arrêt. À tout de suite. Alors voilà, nous sommes de retour et Francine Forget nous amène avec son grand sujet.
Dans le Québec Science de mai 2018, le dossier spécial porte sur la mort. La question posée, quand meurt-on? Un mort dont le cœur bat, oui, cela existe, au grand désespoir de plusieurs familles. Joël Leblanc est l'auteur de ce dossier. Au Civic Hospital de Brampton, en Ontario, Takisha Mikiti, une jeune mère de 27 ans, est allongée sur un lit. Au moment d'écrire ses lignes, une machine souffle de l'air dans ses poumons et un mince tube passe par sa narine pour acheminer des nutriments jusqu'à son estomac. Une fois à l'urgence, le 14 septembre 2017, à la suite d'une overdose de drogue, les médecins ont tenté de la sauver, mais ont finalement dû déclarer sa mort cérébrale. Depuis, son cœur bat toujours, mais il ne se passe rien dans sa tête. Ses parents refusent toutefois qu'elle soit débranchée, disant qu'ils la voient parfois bouger. Ils demandent même une révocation du certificat de décès. L'affaire est devant les tribunaux. Je crois pas que la mort cérébrale soit la vraie mort. C'est contraire à la foi de ma famille, a déclaré en cour son père, un fervent chrétien. Deux définitions de la mort s'affrontent, l'une biomédicale, l'autre religieuse. Takisha est-elle vivante? Est-elle morte? Depuis toujours, les humains ont confirmé la mort de leurs proches par les seuls signes facilement perceptibles de l'extérieur, l'arrêt du cœur et celui de la respiration. Mais c'était sans compter les progrès de la science. Au milieu du 20e siècle, se répandit une nouvelle technologie dans les hôpitaux, le respirateur artificiel. Et avec lui émergea toute une classe de gens au corps chaud et dont le sang circule, pouvant même combattre des infections ou mener à terme une grossesse, mais dépourvue de toute fonction cérébrale, expose Leslie Wettstein, philosophe s'intéressant aux définitions de la mort à la Walsh University en Ohio. Le respirateur permet en effet de maintenir l'oxygénation et donc les battements cardiaques et toutes les fonctions biologiques, depuis la digestion jusqu'à la pousse des ongles. Des mouvements des membres peuvent même survenir, attribuable à une activité nerveuse résiduelle dans la moelle épinière. Soudainement, la mort n'était plus la mort telle qu'on la connaissait. Voilà pourquoi, en mai 1968, un comité d'experts de la Harvard Medical School a jeté les bases du concept de mort cérébrale. Le cerveau peut être mort, même si le cœur bat encore, à condition de respecter cinq critères. L'absence d'activité électrique dans le cerveau, de réactivité à l'examen neurologique, de réponse à la douleur, de réflexe des nerfs crâniens et de respiration spontanée. Une définition qui a eu le mérite de faciliter la transplantation d'organes, mais qui crée de la confusion chez ceux qui restent. C'est vrai que ce n'est pas facile d'accepter qu'un proche soit mort tandis que son cœur bat. C'est contre-intuitif, admet Éric Racine, directeur de l'Université de recherche en neuroéthique à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Au Canada, cela représente environ 1% des cas de décès. Si la plupart des pays développés utilisent la définition de mort cérébrale pour permettre un terme à la vie des patients sous ventilateur mécanique, certains s'attachent encore au bon vieil arrêt cardiaque. L'État du New Jersey, aux États-Unis, par exemple, applique la définition cérébrale, mais des individus peuvent légalement la rejeter pour motifs religieux. On attend alors que le cœur lâche pour débrancher le patient. Quant à lui, le Japon est le seul pays qui autorise ses citoyens à choisir à l'avance la définition de leur mort, cardiaque ou cérébrale. On peut donc être déclaré mort quelque part, alors qu'on serait encore vivant ailleurs. Et au Canada? En gros, vous êtes officiellement mort quand le médecin déclare que vous l'êtes. Nous n'avons pas de définition légale de la mort, expose Éric Racine. L'État s'en remet au médecin, mais ceux-ci appliquent bien sûr la définition cérébrale. Seul le Manitoba s'est doté depuis 1975 d'une définition basée sur la mort du cerveau. Ailleurs au pays, le vide juridique ouvre la porte à des demandes d'accommodement religieux, comme c'est le cas pour Takisha Mekiti. Dans des circonstances naturelles, c'est-à-dire sans respirateur, l'arrêt cardiaque et la mort cérébrale se suivent de très près. Lorsqu'un cœur cesse de battre, la circulation s'arrête et le sang oxygéné cesse d'être acheminé au cerveau. Quelques secondes après cette coupure d'oxygène, c'est l'évanouissement. Et après quelques minutes, c'est l'extinction du cerveau due à la mort des cellules nerveuses qui le constituent. À l'inverse, si le cerveau est détruit en premier à cause d'un accident vasculaire, par exemple, la respiration s'arrête, faute de signal nerveux. Le cœur, qui est pour sa part autonome, continue de battre un moment, jusqu'à ce que le manque d'oxygène ait raison de lui et que l'arrêt cardiaque survienne. Pour les médecins, la mort est la cessation irréversible de toutes les activités du cerveau, précise Éric Racine. Mais pour le grand public, l'appellation « mort cérébrale » laisse parfois croire que tout n'est pas fini, que cette mort n'est pas finale. Alors ce dossier est assez long, donc je vais poursuivre la lecture un peu plus tard au cours de l'émission.
Quel sujet préoccupant et émotif à la fois. Merci, Francine, et j'ai bien hâte à la seconde partie. Pour ma part, je vais terminer un dossier, une grande enquête que Mme Noémie Mercier a effectuée de la revue Actualité. Et ça s'intitulait « Mourir seul », et on est vraiment dans le ton avec le texte de Francine. Ceci dit, c'était fait dans le cadre de la rencontre de personnes aussi. Alors voici la dernière personne qu'elle a rencontrée. Il s'appelle Jean-Pierre. Il dit ceci. Il se sait à très haute probabilité de mourir seul. Il a choisi de s'y préparer. Ce vieux garçon de 74 ans, ancien professeur de physique au Cégep et patenteux informatique de la première heure, vit en semi-réclusion dans un domaine privé des Laurentides au bord d'un lac. Sa maison a pour principale qualité à ses yeux d'être entourée d'arbres qui l'isolent des autres riverains et d'être assez grande pour accueillir son piano de concert. L'endroit est difficile à trouver, au détour d'un chemin de terre et son entrée abrupte est périlleuse en hiver. « J'ai craint de me casser le cou en m'aventurant par une journée glacée », dit l'auteur de ce texte. Ici, Jean-Pierre peut passer un mois sans voir personne. D'un naturel à la fois anxieux et systématique, il a conclu un accord avec une amie de longue date. Le mercredi et le dimanche, il doit lui envoyer un courriel. Si elle ne reçoit rien, elle a pour consigne de lui téléphoner. S'il ne décroche pas, de contacter un voisin, sinon le 911. Sur un pupitre sont déposées bien en évidence les instructions à suivre si on le trouvait mort ou blessé. Pour le moment, ses journées sont pleines. Tous les jours, il s'exerce au piano pendant 4 heures. Il fait une marche dans les bois, un tour de chaloupe. Il lit des manuels de physique quantique pour le plaisir, comme d'autres feuillettes des revues de jardinage. Régulièrement, il donne des leçons de piano à la fille de 11 ans de sa grande amie par l'intermédiaire d'un appel vidéo. Sous des dehors de vieilles excentriques aux cheveux fous, enclins aux digressions métaphysiques, je le découvre aussi sentimental qu'il est misanthrope, gauche, mais d'une gentillesse infinie, nonchalant face à la mort et pourtant pétrifié par elle, et surtout seul. Ses parents ne lui ont pas laissé de bons souvenirs, il ne s'est pas présenté aux obsèques de son père, et son frère, seul survivant, est à peu près absent de sa vie. J'ai l'impression que ce que j'avais à faire, je l'ai fait, dit-il. Ben, il me reste bien une petite partition athlétique de Ravel, Gaspard de la nuit, qui lui tarde de maîtriser, mais sinon, Jean-Pierre se dit prêt à partir. Il y a quelque temps, un virus redoutable a cloué au lit pendant plusieurs jours, croyant confusément que ça y était. Il s'est laissé glisser. J'étais sûr que j'y passerais. J'ai pas eu le réflexe d'appeler au secours. Je me suis laissé aller, me coucher, et j'ai continué à descendre. J'étais bien. Je pourrais m'illusionner sur l'importance que je peux avoir. Même mes bons amis, je les vois une fois, deux fois par année. Qu'est-ce que ça peut changer que je sois là ou pas? Si la hantise de mourir seul à domicile le tourmente, ce n'est pas par crainte de ne pas être secouru à temps, dit-il. C'est plutôt à cause de la petite pianiste en herbe pour qui il s'est pris d'un amour paternel et à qui il espère léguer sa demeure en héritage. Je veux que ma maison reste intacte. Si je reste un mois à me décomposer, il pourrait être obligé de la raser. Ce n'est vraiment pas pour qu'on vienne me sauver in extremis au cas où je me casserais une jambe, dit-il d'un air mi-sérieux, mi-amusé. Mon héritière m'incite à prendre des moyens pour le moment où elle aura ma maison et surtout mon piano. C'est une pensée très agréable pour moi de l'imaginer avec mes affaires. L'idée de son corps en putréfaction dans la future résidence de la Villette, de la fillette, pardon, le révulse davantage que la mort elle-même. Alors, il envoie ses 2 courriels par semaine. C'est un motif saugrenu, peut-être. C'est néanmoins ce qui le garde en vie. Évidemment, Jean-Pierre est un nom fictif. Le nom n'a pas a été modifié par Mme Noémie Mercier. Donc, c'est la fin d'un très beau dossier sur un constat de société, mourir seul, et c'était dans la revue Actualité.
Dors un peu, prends du mieux, essaie donc de lire ou ferme tes yeux. Demain va finir par arriver. Laisse-moi faire, va prendre l'air, ça va s'embellir, le ciel est clair. Fais-moi un sourire, c'est presque l'été. S'en sortir, mais
Alors, c'était M. Chandler et sa chanson « Vieillir à mort ».
Merci, Mathieu. Nous revoilà en studio, Hélène Bédard et Francine Forget. Et Francine Forget va continuer avec un texte fort intéressant, encore une fois.
Oui, on va laisser le dossier sur la mort qu'on pourra reprendre tantôt. Question de se donner un petit peu d'air. Je vais vous parler de crypto-monnaie. Devrait-elle être considérée dans la planification de sa retraite? Est-ce une bonne idée d'en avoir dans son portefeuille? En général, les experts croient que non, mais des petits épargnants et certains gestionnaires de portefeuille ne sont pas aussi catégoriques. Stéphane Champagne fait un tour d'horizon dans la presse plus du 22 avril 2018. À l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, on invite les investisseurs à la plus grande prudence lorsqu'il est question de crypto-monnaies. Ces monnaies virtuelles, dont la plus connue est le Bitcoin. Les investisseurs doivent savoir dans quoi ils s'embarquent, explique Sylvain Théberge, porte-parole de l'AMF. Ils doivent être conscients que, de par la nature du projet dans lequel ils sont prêts à investir, l'éventail de risques est tellement large qu'ils doivent assumer celui de perdre éventuellement la totalité de leur investissement. C'est très risqué, c'est très volatile, et dans certains cas, il y a beaucoup d'inconnus. M. Théberge, qui associe les crypto-monnaies à une nouvelle façon d'aller chercher du capital de risque, rappelle que les monnaies virtuelles ne sont pas réglementées et qu'elles ne sont rattachées à aucune grande banque. L'AMF, ajoute-t-il, a mis en place un comité FinTech pour suivre l'évolution des crypto-monnaies. Il existe par ailleurs à l'AMF un centre d'information où les investisseurs peuvent s'informer sur les monnaies virtuelles. À ce jour, un seul projet québécois de monnaie virtuelle, l'Impact Coin, s'est tourné vers l'AMF pour développer son projet en conformité avec elle. Dans la même mouvance, la Société québécoise Investissement Rivemont a créé en octobre 2017 le tout premier fonds canadien contenant différentes crypto-monnaies, dont le Bitcoin et l'Ethereum. Pour l'heure, le fonds attire deux types de clientèle, explique Martin Lalonde, président d'Investissement Rivemont. Il y a-t-il des jeunes qui ont fait un profit en achetant des crypto-monnaies sur le web et qui veulent maintenant les intégrer dans leur IR ou leur CELI? Et il y a les clients fortunés qui croient dans notre produit. Même s'ils considèrent que les crypto-monnaies sont la classe d'actifs la plus volatile sur le marché, Martin Lalonde croit énormément au potentiel de ce type de placement. Pour la très grande majorité des investisseurs, les crypto-monnaies ne devraient pas faire partie de leur portefeuille d'investissement pour la retraite, indique pour sa part Alexandre Rock, professeur au département de finances de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Beaucoup de risques spécifiques sont associés. Volatilité, liquidité, risque judiciaire et même le risque de participer indirectement à des activités de blanchiment d'argent. Michel Mailloux, consultant en conformité financière, formateur et président du Collège des professions financières est du même avis. C'est normal quand on est jeune, dit-il, d'avoir des placements plus spéculatifs. Mais les crypto-monnaies ne sont pas des placements spéculatifs normaux. C'est l'équivalent d'un billet de loterie. On achète des billets de loto pour se faire plaisir à l'occasion, mais pas pour planifier sa retraite. D'ailleurs, selon lui, le Bitcoin est une mode qui sert avant tout au blanchiment d'argent et à l'évitement fiscal. La technologie de la blockchain qui est derrière ça, c'est quelque chose de solide, dit-il. Si les gens tiennent absolument à acheter de la monnaie virtuelle, je conseille d'en acheter avec son CELI, parce qu'il n'y aura pas de pénalité d'un point de vue fiscal. Un informaticien montréalais de 48 ans qui requiert l'anonymat pour des raisons professionnelles est féru de crypto-monnaie. Il possède 10 bitcoins pour une valeur de 86 000 $. Il affirme avoir lui-même miné ses bitcoins il y a quelques années, alors que l'opération était relativement plus facile qu'aujourd'hui, dit-il. Le bitcoin fait partie de son plan de retraite, mais dans une faible proportion. Je crois qu'en 2020, le bitcoin vaudra 25 000, 100 000 en 2025 et 250 000 en 2030. Une chose est certaine, si ma prédiction n'arrive pas, cela n'aura aucun impact sur le moment de ma prise de retraite. En investisseur avisé, il possède un portefeuille équilibré, des REER et un CELI bien garni. Sa maison et son auto sont libres de dettes. « J'ai une situation enviable, Dieu merci, » dit-il. Alors, ce tour d'horizon sur la crypto-monnaie et la retraite a été fait par Stéphane Champagne dans la presse Plus du 22 avril 2018.
Excusez-moi, Mathieu qui était en feu ce matin à la régie. Désolé. Alors, pour faire suite à l'excellent texte qui nous fait réfléchir sur la crypto-monnaie et la retraite et les épargnes, moi, j'ai un texte sur... Il s'intitule « Maison de retraite ou maison d'inquiétude » et ça traite justement à des gens qui envisagent de prendre une retraite avec un portrait financier que je vais vous présenter. Fort intéressant. Voici un couple de personnes, Nicole et son mari. Ils sont prêts à quitter leur maison, mais ont-ils les moyens de s'offrir la résidence qui les intéresse? Donc, ils songent à déménager dans une résidence pour personnes âgées. Pas qu'ils soient tellement âgés, mais ils ont respectivement 78 pour elle et 82 pour lui. Alors oui, on est prêt finalement à quitter à regret notre maison qu'on habite depuis 40 ans, confie Nicole. Elle est évaluée à 295 000 $ et elle a toujours été bien entretenue. Donc, ils envisagent de l'habiter dans une résidence qui sera terminée à l'été 2019. Le loyer, par contre, lui, s'élèverait à 3 000 $ pour un logement de 4 pièces. Et elle dit, c'est épouvantable comme montant. C'est sûr qu'on s'en va dans du neuf, mais quand même. Et en plus, il y a 80 $ pour le stationnement d'auto souterrain. C'est un véritable choc là, pour ces deux personnes-là. Le couple possède une seule voiture, une auto électrique, donc c'est pas trop dispendieux. À ce prix-là, on avait même droit à un système de branchement dans les résidences qu'ils envisagent. C'est pourquoi on va aller dans quelque chose de neuf. Le loyer de 3 000 $ par mois comprend 10 repas par mois. À eux deux, ce n'est pas beaucoup. Le couple espère restreindre ses dépenses à 1 000 $ par mois. L'alimentation, un peu de vêtements, à notre âge, ça n'en prend pas beaucoup. Alors, voyons voir les revenus et voyons voir s'ils ont des bitcoins. Alors, dans les revenus, ils ont des revenus totaux, toutes les deux, de 58 000 $ et à peu près 130 000 $ en épargne. Au décès, comme toute rente, il n'en restera probablement que la moitié, mais c'est à considérer étant donné qu'il y a un des deux qui est plus âgé que l'autre. On souhaiterait être capable de vivre avec nos rentes, tout simplement. On a 4 enfants, on aimerait bien leur laisser quelque chose en partant. Sont en bonne santé, rien ne laisse présager un décès prochain, à moins qu'il soit soudain. Est-ce que c'est un projet réalisable de s'en aller dans une résidence à 3 000 $ par mois sans se ruiner et de faire durer le plaisir jusqu'à 90 ans? La réponse. Le planificateur financier, Sylvain Chartier, dit qu'indépendamment du niveau de revenu, c'est une préoccupation que beaucoup de gens peuvent avoir. Dans les conditions actuelles, Sylvain Chartier analyse la situation. Oui, la réponse est oui à plusieurs conditions. Il mentionne que la vente de la propriété, les bénéfices et la mise aux intérêts pourraient éventuellement donner accès aux conditions du couple et de voir que leur épargne pourrait s'épuiser vers 2040, c'est-à-dire 2040. Donc, tout va bien donc pour ce couple. La deuxième étape, c'est qu'il arrive qu'un des deux conjoints ait des problèmes de santé et s'en aille vivre en CHSLD. Et là, ce n'est pas gratuit. Le loyer pourrait être en double, c'est-à-dire le 3 000 $ à la résidence et un montant beaucoup plus élevé pour le CHSLD. Les loyers au CHSLD varient entre 1 200 et 1 800. Alors, il faut ajouter un 10 000 $ par année. De plus, rien n'empêche évidemment l'autre conjoint de prendre un loyer moins cher de 3 000 à 2 500. Le cas le plus dangereux, c'est le décès de Jean-Pierre. C'est celui qui a la rente la plus élevée. Habituellement, on dit que le loyer demeure le même, mais les dépenses sont ramenées de 12 000 à 9 000 pour un coût révisé donc de 45 000 $. Dans les circonstances, le capital s'épuiserait donc 8 ans plus tôt. Mais en somme, ne vous empêchez pas d'aller vivre dans la résidence que vous avez en tête, lance Sylvain Chartier. Vous arriverez très bien. Vous avez même un bon coussin si jamais un événement survenait, que ce soit le décès d'un des deux, surtout celui de Jean-Pierre, ou que ce soit, évidemment, l'hébergement dans un CHSLD. Il ne mentionne pas ici l'achat de crypto-monnaie, mais ce serait peut-être quelque chose à penser pour ce couple, cet exemple de couple. Alors, maison de retraite ou maison d'inquiétude, c'est un texte de Mark Tyson, dans la presse le 15 avril 2017. 2018, je m'excuse. Je vous remercie. Je m'excuse. Voilà, alors on quitte pour une pause et nous revenons. Restez avec nous. Nous revenons pour la suite des choses.
Non, en fait, c'est je ne parle pas français de la chanteuse allemande Namika.
Quel accent vous avez, Monsieur Mathieu, c'est formidable. Alors, nous sommes de retour. Merci d'être encore avec nous. Et nous continuons avec Francine qui va nous parler de sa suite de Camerton.
Oui, voilà, mort cérébrale ou mort cardiaque. Alors, c'est la question qu'on pose dans ce dossier de Québec Science de mai 2018. Même les médias s'y trompent, a observé Éric Racine dans une étude publiée en 2014, recensant 940 articles de journaux américains et canadiens de 2005 à 2009. Dans 39 % des articles, le concept de mort cérébrale était mal compris par les journalistes eux-mêmes et mal expliqué quand il était expliqué. Plusieurs articles laissaient entendre à tort qu'une personne pouvait avoir deux morts, une première mort cérébrale, puis une deuxième lors du débranchement des appareils qui maintiennent les fonctions vitales. Or, pour dire les choses crûment, un corps dont le cerveau est mort n'est pas très différent d'un corps sans tête dont on maintiendrait artificiellement les fonctions vitales. Mais comment s'assurer de l'absence d'activité dans un cerveau et surtout de l'irréversibilité de cette situation? En se fiant au fameux tracé plat de l'électroencéphalogramme qu'on appelle le EEG, que l'on voit dans les films? Pas vraiment. Un trait plat sur l'écran ne signifie pas nécessairement que le cerveau est mort, explique Florin Amzika, directeur du laboratoire de neurophysiologie du sommeil et des états de conscience altérés à l'Université de Montréal. Tout comme un ordinateur éteint n'est pas brisé pour autant, un EEG plat peut être le signe d'un coma très profond, mais pas nécessairement irréversible. Le coma est le symptôme d'un dysfonctionnement sévère du cerveau, mais il peut être provoqué par des drogues, et une fois leur effet dissipé, le cerveau redémarre. Un EEG seul, s'il peut détecter la vie, ne peut donc pas confirmer la mort. Alors comment peut-on déclarer un cerveau hors d'usage? En observant des signes cliniques. On teste entre autres le réflexe respiratoire en stoppant momentanément le respirateur. Puis on tire légèrement sur le tube alimentaire qui va dans l'estomac pour voir si le réflexe de déglutition est présent et on envoie un faisceau lumineux dans l'œil pour vérifier si l'iris se contracte. Plusieurs autres tests doivent aussi être menés, idéalement deux fois plutôt qu'une, et par des médecins différents, avant de parvenir à un diagnostic de décès neurologique. Toutes ces réactions sont des réflexes basiques, note Florin Amzika. S'ils ne fonctionnent pas, c'est que le cerveau profond est affecté. On ne donne pas cher alors des fonctions complexes du cerveau qui sont les premières à être détruites en cas d'hypoxie. Le tableau a beau être clair pour les médecins et donne tout de même matière à réflexion aux éthiciens et philosophes qui se questionnent sans relâche depuis la publication du rapport de Harvard. Ce qui nous importe tant avec le cerveau est le fait qu'il supporte la conscience, note la philosophe Leslie Wettstein. Au-delà du cerveau et des organes biologiques, la mort devrait plutôt être définie comme la perte irréversible de cet état de conscience. Dans son lit, Takisha Mekiti l'a perdu depuis plusieurs mois cet état de conscience, quoi qu'en disent ses parents. La judiciarisation de son cas et de quelques autres fera peut-être bouger des choses au pays et forcer l'adoption d'une définition légale de la mort. Ou peut-être suffira-t-elle à rappeler l'absence d'un système d'accréditation des médecins chargés de prononcer le diagnostic ultime, ce que déplorent certains d'entre eux. Rien n'est simple dans la vie, pas même la fin. Alors ce dossier, quand meurt-on, de Joël Leblanc, est suivi d'un autre filet, toujours dans Québec Science de mai 2018, de Mélissa Guillemette, où on parle de l'imagerie pour diagnostiquer la mort cérébrale. Pourrait-on diagnostiquer le décès neurologique à l'aide de l'imagerie médicale plutôt qu'avec l'examen physique pour convaincre les familles que le cerveau de leurs proches est bien éteint? On n'en est pas là, dit l'intensiviste et chercheur du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Michael Chassé. L'examen clinique est 100% fiable quand il est bien fait. Mais plus les années passent, et plus il y a de cas qui empêchent de compléter l'examen clinique ou faussement carrément. Par exemple, le fentanyl imite parfaitement la mort cérébrale, souligne le médecin. Le docteur Chassé dirige justement un essai clinique national pour comparer l'efficacité d'un test d'imagerie et celle de l'examen clinique. Il faut dire que les médecins utilisent déjà des techniques d'imagerie quand ils ne peuvent pas compléter l'examen traditionnel, mais elles ne sont pas des plus efficaces. Ces techniques vérifient si le sang se rend à la tête en prenant une seule photo, mais elles ne montrent pas si le sang se rend vraiment aux cellules. On garde donc peut-être des patients en vie alors qu'ils sont en état de mort cérébrale. Notre test suit plutôt les globules rouges sur plusieurs minutes pour voir s'ils se rendent aux cellules. Le test à l'étude pourrait aussi être utilisé par les médecins qui ne sont pas suffisamment confiants pour poser un diagnostic de mort cérébrale à partir de l'examen clinique, faute d'expérience à la matière. Dans les grands hôpitaux, on a environ 30 à 40 cas de mort cérébrale par année. Mais à Chibougamau, par exemple, il peut n'y en avoir qu'un seul. Alors Mélissa Guillemette complétait ce dossier sur Quand meurt-on, paru dans le Québec Science de mai 2018. Oh là là! Alors il est temps qu'on passe à un autre sujet.
Nous revoilà en studio et pour faire suite à l'excellent documentaire de Francine, moi, je vais vous parler d'un texte ici. Quelqu'un a interviewé Monique Miller qui a dit ceci. « L'âge, ce n'est qu'un chiffre. » C'est Vanessa Guimond qui l'interviewait dans Journal de Montréal. Ça s'est passé le 15 avril. À 84 ans, Monique Miller s'apprête à relever l'un des plus imposants défis de sa carrière en se plongeant dans les chaises de Ionesco. Une pièce au texte exigeant et surréaliste qu'elle défendra sur les planches du Théâtre du Nouveau Monde à compter du 8 mai. Si nous avions suivi les conseils de Monique Miller, l'une de nos rares actrices à pouvoir se targuer de pratiquer son métier depuis plus de 7 décennies, elle a amorcé sa carrière à 11 ans avec les radiothéâtres. Nous n'aurions pas fait mention de son âge dans ces lignes. « Parce que je trouve ça facile, nous a-t-elle répondu, lorsque nous lui avons demandé de préciser sa pensée. Pour moi, l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Jeune de cœur, jeune d'esprit, celle qui dit marcher au moins 30 minutes par jour puisqu'elle ne possède pas de voiture, nous a aussi confié en avoir assez de se faire demander comment elle fait pour maintenir son rythme de vie à son âge. J'ai envie de demander à ces gens, comme eux, ils font à leur âge. A-t-elle affirmé en riant, Monique Miller. Parfois, je trouve que les gens plus jeunes ont l'air pas mal fatigués. D'ailleurs, je trouve ça un peu triste que, passé 60 ans, certaines personnes ne parlent que de la retraite. Accordant un peu d'importance à l'âge, Monique Miller ne croit pas davantage au concept de la retraite, une étape qu'elle ne pourrait considérer franchir que si elle n'avait plus la santé ou si elle perdait la mémoire complètement. Le travail, ça garde en vie. C'est extraordinaire. Les gens qui arrêtent de travailler et qui s'écrasent chez eux, ils meurent d'ennui. Prenez Nana Mouskouri, par exemple. Elle avait arrêté de chanter, mais elle s'est rendue compte que c'était effrayant. Là, elle refait actuellement une énorme tournée. Et savez-vous, elle a 83 ans. Bien qu'elle soit tournée vers l'avenir, l'actrice, que l'on compare souvent à une encyclopédie en raison de sa mémoire étonnante, aime se souvenir et discuter de beaux moments qu'elle a vécus aux côtés des auteurs, comédiens et réalisateurs qu'elle a pu côtoyer au fil des ans. « Je me rappelle plein de choses, même des dates de naissance. Je me souviens de tout, » dit-elle. Parmi les projets qui l'ont marqué, on compte ses rôles dans Montréal PQ, 7e Nord, mais aussi sa participation au TNM à 4 grandes pièces de Paul Claudel, dont Le soulier de Satan qui durait 4h35. Il y en a beaucoup à constater celle qui, toujours en quête de nouvelles stimulations, se consacre à la comédie dramatique Les chaises depuis juin dernier. Après tout, elle y incarne l'un des principaux personnages, une première depuis la présentation au TNM d'Albertine en 5 temps en 2014. Cette pièce de Ionesco, elle n'est pas banale. C'est un grand classique, a dit l'actrice, qui partagera la scène avec son confrère Gilles Renaud. C'est l'histoire d'une vie. Les deux personnages ont 95 et 94 ans. Ils sont vieux et ils ne sont pas vieux, dans le sens où ils agissent comme des enfants. Ils se racontent des histoires, ils y croient. Le grand bonheur, c'est qu'ils attendent quelqu'un. Quand on lui demande vieillir à la caméra, ce qu'elle en dit, c'est vrai qu'il y a peu de rôles pour les femmes de plus de 60 ans à la télévision. Par contre, je n'ai jamais eu peur de ne plus travailler car on ne peut pas penser comme ça lorsqu'on est pigiste. Et à propos du trac, elle dit « Nous l'avons de plus en plus en vieillissant parce que nous sommes de plus en plus conscients de ce trac. Quand j'avais 17 ans, je regardais mes aînés s'énerver et je me disais « Ah, ça doit être ça le trac. Je ne connaissais pas ça à ce moment-là. » Et elle précise « Je ne suis pas sur Facebook. Je trouve ça bien pénible. Je prends beaucoup le métro et quand nous sommes 15 à entrer dans ce wagon, il y en a 12 qui ont le nez penché sur leur téléphone. C'est triste. Quand je rencontre 2 ou 3 personnes qui lisent des livres, je les félicite. » Le milieu du théâtre est toujours aussi riche. À Montréal, avec toutes les jeunes troupes et les compagnies qui se forment, c'est un milieu qui se porte bien, selon moi. Par contre, c'est certain qu'elles auraient besoin de plus de subventions parce qu'elles ne sont pas riches, même si les gros théâtres sont obligés de faire des miracles avec ce qu'ils ont. Lorsqu'on lui demande comment se déroule l'apprentissage de ce texte de Ionesco, ce texte que l'on dit « quasi impossible à apprendre », notre interlocutrice nous répond avec conviction « Mais rien n'est impossible si on veut. Il faut travailler fort, très fort, C'est ce que nous faisons encore d'ailleurs. Un très beau texte, une très belle entrevue avec Monique Miller de Vanessa Guimond, paru dans le Journal de Montréal le 15 avril. Alors, je voulais juste préciser que mon texte était bien du mois d'avril de 2018 parce que mon régisseur était inquiet, là, si j'allais dire encore 2017. Merci, Mathieu, de me le rappeler aussi gentiment. Je laisse donc la parole à quelqu'un de plus sage, Francine.
Oh non, 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 moi aussi j'ai trébuché. Moi, j'étais au mois de mars, en retour à l'hiver. Dans le Québec Science, toujours de mai 2018, il y a toujours une section qu'on appelle polémique, et évidemment, qui, ça ne fait pas exception pour ce mois-ci. La polémique, cette fois-ci, elle est signée par Jean-François Clich. Et la question qu'il pose, dépression chez les jeunes, la faute au cellulaire? Un animal aussi social qu'Homo sapiens devrait être content de pouvoir être branché en permanence sur ses semblables grâce au cellulaire et aux réseaux sociaux. Lui qui déteste être seul, lui pour qui l'isolement est un facteur important de dépression, vient de remporter une belle victoire sur la solitude. Et pourtant, chercheurs et médias s'interrogent beaucoup sur les méfaits du cellulaire. Dans le collimateur, la possibilité d'être joint en tout temps en nous privant de moments tranquilles, la pression d'afficher son bonheur en permanence, et disons-le, les amis Facebook qui sont de bien piètres succédanés aux copains en chair et en os. Les milléniaux seraient les premières victimes de l'hyperconnectivité, eux qui sont plus anxieux et plus dépressifs que la génération précédente. Alors, faut-il jeter ses téléphones à la poubelle pendant qu'il est encore temps? Il existe plusieurs études qui ont trouvé un lien entre l'usage du cellulaire et différents facteurs de santé mentale, comme la solitude, la dépression et l'anxiété. Par exemple, un article publié l'an dernier dans Clinical Psychological Science montre que 48 % des adolescents américains passant plus de 5 heures par jour à l'ordinateur ou au cellulaire ont au moins un symptôme relié au risque de suicide, contre seulement 29 % pour ceux qui l'utilisaient moins de 1 heure par jour. Depuis 2010, les adolescents de la génération Z, c'est-à-dire celle qui est née entre 1995 et 2012, ont consacré de plus en plus de temps à leurs écrans au détriment des autres loisirs, ce qui pourrait expliquer une augmentation des symptômes dépressifs et du suicide, écrit son auteur, la psychologue John Twenge de l'Université San Diego State. Ce genre de constat reçoit toujours une grande attention médiatique, et ce fut le cas pour l'étude de John Twenge. Ce n'est pas mauvais en soi, mais comme les journalistes ont tendance à ignorer une partie des résultats positifs suggérant qu'il n'y a pas de problème, le reportage donne à penser que les cellulaires sont de vilaines petites bêtes. Or, on est loin du compte. Les études colligées par John Twenge concluent au danger potentiel des cellulaires, mais elles reposent toutes sur des corrélations, écrivait récemment dans Psychology Today la chercheuse Sarah Rose Kavanagh de l'Assumption College. Une corrélation n'implique pas nécessairement une relation de cause à effet. Et même s'il y en a une, cela n'en indique pas le sens. Ainsi, il est tout à fait envisageable que le téléphone n'entraîne pas la dépression, mais pousse plutôt les gens à s'en servir abusivement pour fuir leur solitude. En outre, il y a aussi des travaux qui démontrent une absence de lien entre le cellulaire et la dépression. L'un d'eux, publié l'année dernière dans Psychological Science, conclut que l'usage d'un cellulaire pendant moins de 2 heures par jour n'a pas d'effet négatif et que même passé ce seuil, cet effet négatif sur le bien-être est 3 fois plus faible que l'effet positif d'un bon déjeuner ou d'un sommeil suffisant. Le cellulaire et les réseaux sociaux ont connu une progression foudroyante chez les ados de 15 ans. On pourrait donc s'attendre à ce qu'ils aient un effet sur le taux de suicide s'ils étaient véritablement des facteurs importants de dépression. Or, ce n'est pas le cas. Si l'on se fie aux données de Statistique Canada, le taux de suicide chez les 15-19 ans est stable, sinon légèrement à la baisse depuis 2000. Bref, si certaines études nous rappellent à bon droit qu'il est possible d'abuser des écrans et que cela a des conséquences, il semble que l'attention médiatique qu'on y consacre soit disproportionnée. La polémique, signée Jean-François Clich, alors cette chronique est parue dans Québec Science, mai 2018.
Et voilà, nous poursuivons. J'ai trouvé une chronique, enfin un texte très intéressant dans Le Soleil. C'est une chronique, finalement, de Mylène Moisan. C'est paru cette semaine. Et ça s'intitule « Comme une grosse fatigue ». Lundi soir, au CHSLD de Loretteville, il n'y avait qu'une seule préposée pour tout un étage complet. Un étage complet, c'est une trentaine de personnes. Toute seule, il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire, comme changer certains résidents de position. Il faut être deux. Question de sécurité. L'infirmière en chef et la gestionnaire ont dû venir en renfort. C'est arrivé aussi au CHSLD de Saint-Augustin, une journée en fin d'après-midi. On a trouvé notre préposé juste à temps pour le souper. Ce n'est plus rare qu'il manque de préposé, c'est presque la norme. Je suis allée rendre visite à mon amie Marie-Noël au CHSLD de Loretteville le lendemain de Pâques. On l'a changée de chambre. Elle fait partie du projet de micro-milieu, ouais, où on regroupe les gens selon leur profil. On a donc mis Marie-Noël, 43 ans, avec des gens dont le corps a les mêmes besoins, mais pas la tête. Elle se retrouve donc avec des gens qui ne sont pas toutes là, comme sa voisine qui chante des vieilles chansons à cœur de jour. C'est joli, 5 minutes, mais ça finit par tomber sur les nerfs à la fin de la journée. Comme l'entendre aller à la toilette, leurs chambres sont séparées par une salle de bain commune, zéro isolée. Et si c'était seulement ça? L'instauration des micro-milieux, une autre belle idée, s'est faite dans le contexte d'une pénurie de personnel sans précédent. Le fragile équilibre a été rompu. Le personnel trouve ça vraiment difficile. Il y en a qui viennent me voir, qui pleurent parfois. Le personnel est débordé. La gestionnaire fait son possible, elle va recruter dans les salons de l'emploi, et elle aussi, dépassée par la situation. Elle aussi donne parfois des bains. Quand je suis passée, ils étaient justement 3 jours en retard sur les bains. On avait demandé des préposés en renfort pour rattraper le retard. Marie-Noël devait avoir son bain samedi. Ben, elle n'a pas eu. Il n'y a plus de renfort. Hier, une préposée a offert de travailler quelques heures de plus à la fin de son quart de travail pour donner les bains. Elle s'est offerte même si elle avait une soirée de prévue. Elle a dit « On travaille avec des humains tout de même. » Eux ne punchent pas, ils sont toujours là. Quand la nouvelle est sortie sur le tard de l'implantation, des nouveaux repas dans les CHSLD, ici, il manquait tellement de personnel qu'on n'était pas en sécurité. Il y avait juste une préposée. Imaginez s'il y avait eu une chute. Jusqu'au jour où il y en aurait eu une chute. Marie-Noël n'attend pas après le poulet tandoori. C'est rendu que je m'achète des repas congelés 6 par semaine et quand je suis tannée de manger la même chose, je leur demande de m'en réchauffer un. On mange toujours des repas en sauce. C'est fait pour les personnes âgée, c'est plus rapide à faire manger. Elle est toujours servie avec les éternelles patates pilées. C'est rendu qu'on fait des blagues de patates. Je suis très bien traitée, je ne veux pas faire pitié. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est que c'est rendu juste trop lourd comme atmosphère. Tout le monde est épuisé, moi aussi. Au CIUS, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, on convient que la situation est difficile. Responsable du soutien à l'autonomie des personnes âgées, Nancy Drouin confirme que la pénurie complique les choses. C'est très difficile partout, et pas uniquement à Loretteville. C'est excessivement fragile, mais il ne faudrait pas faire une simple addition et attribuer la situation actuelle à la seule implantation des micro-milieux. Il manque présentement autour de 300 préposés. Aux ressources humaines, Christian de Beaumont indique avoir reçu 293 CV à la foire de l'emploi en fin de semaine dernière. On a 82 embauches qui sont confirmées et qui devraient s'ajouter d'ici l'été. mais en même temps, on doit composer avec une diminution de la disponibilité de nos gens. Surtout chez les infirmières qui, dans l'idéal, demandent 3 ou 4 quarts par semaine. C'est comme mettre de l'eau dans un panier percé. Nancy Drouin a aussi reconnu que les micro-milieux ne réglaient pas le problème des adultes qui ont de grands besoins physiques. Des résidents lucides, comme Marie-Noël, qui passent leur journée avec des gens ayant d'importants troubles cognitifs. Ça reste une préoccupation, un défi, c'est très complexe. On essaye le plus possible de favoriser les activités extérieures, mais il y en a peu. Je suis partie, le téléphone n'avait pas arrêté de sonner depuis 1h30. La voisine s'est remise à chanter encore. J'ai noté les paroles d'une chanson que je ne connais pas, d'un air qui m'était inconnu. Ce n'est qu'à nous revoir, demain matin dès le lever du jour, en attendant ton retour. Était-ce pour un amour perdu? Était-ce pour une préposée en renfort? Voilà un texte de Mylène Moisan, une belle chronique, très actuelle, parue dans Le Soleil le 22 avril 2018. Et voilà, je laisse la parole à Francine Forget.
Hélène, vous parliez du journal Le Soleil. Moi, je vais vous parler du soleil tout court. Est-ce que vous aimeriez que votre nom soit sur le soleil?
Mais bien sûr!
Bien sûr! Mathieu! Oui, aussi! Alors, bon, vous avez toujours rêvé que votre nom fasse du chemin? Bien, vous avez jusqu'à aujourd'hui pour l'envoyer jusqu'au soleil. La NASA offre en effet de l'embarquer sur Parker Solar Probe, une sonde qui s'approchera plus près de notre étoile qu'aucun autre objet n'y est jamais parvenu. Le vaisseau affrontera des températures extrêmes pour mieux comprendre le Soleil et nous aider à nous protéger de ses sautes d'humeur. Alors, cette idée nous est présentée par Philippe Mercure dans la Presse Plus, édition du 25 avril 2018. Alors, comment ça marche? La NASA inscrira votre nom sur une carte mémoire qui sera embarquée dans la sonde. La date limite, aujourd'hui, vendredi 27 avril. Un certificat de confirmation vous sera ensuite envoyé. William Shatner, ça vous dit quelque chose, le capitaine Kirk de Star Trek, a associé son nom à la mission. La mission, son départ est prévu quelque part entre le 31 juillet et le 19 août prochain. La sonde, en fait, qui compte 4 instruments pour sonder le Soleil, a pour but de mieux comprendre la dynamique du Soleil. Alors, comment on pourrait être protégé des tempêtes solaires qui peuvent avoir un impact sur nos systèmes électriques et de communication? Ensuite, il y a une attention spéciale qui sera portée à la couronne solaire, la partie externe de l'atmosphère du Soleil, qui s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace. Alors, si ça vous dit quelque chose, donc je répète, Parker Solar Probe sur le site de la NASA pour associer votre nom au Soleil et à une mission qui va partir sous peu.
Quelle idée lumineuse! Bien, merci beaucoup, Francine. Fort intéressant, fort amusant. Bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Francine. Merci, Mathieu. Alors, on vous souhaite de vous retrouver vendredi prochain. Portez-vous bien. Au revoir.